Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Sander Weiss, alias BBP. Salut.
Salut Raphaël.
Comment tu vas?
Bah ça va super, toi?
Très bien, merci beaucoup. On va revenir avec toi sur ton parcours et surtout sur ta sortie récente, puisque maintenant tu sors de la musique sous ton propre nom, justement, Sander Weiss. Ouais. Comme j'ai coutume de le faire, je vais faire un CV accéléré pour que les gens captent un peu qui tu es. Et ensuite, on va revenir en détail sur justement ton parcours musical. Donc BBP, producteur qui depuis une dizaine d'années a composé sous ce nom pour Vald, Shinsekai, Dinos, Timal, Al Capote, PNL, Dossé, SCH et bien d'autres. Et depuis quelques temps, tu es aussi interprète, donc sous le nom de Sander Weiss, et tu viens de sortir l'album The Broken Blue. Alors la question c'est du coup, comment est-ce que je dois t'appeler pendant tout cet entretien? Est-ce que je dois t'appeler Sander, BBP?
Sander, c'est mon prénom. Tu peux m'appeler Sander. Tu peux m'appeler BBP comme tu veux.
Très bien. Alors, on va rester sur Sander. Ça me plaît bien. Puis, ça donne un peu de nouveauté parce qu'on s'est déjà croisé, toi et moi, dans un autre format où on était revenu un peu sur ton parcours et c'était à l'époque de BBP. Donc, c'est bien. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle personne face à moi et d'avoir des nouvelles choses à te faire raconter.
De ouf. Attention, BBP est toujours là.
Et BBP est toujours là, évidemment. Hein, ouais, tout à fait. Alors, justement, parlons de cet album, The Broken Blue. Toi qui as été producteur pendant une dizaine d'années sous le nom de BBP, qu'est-ce qui t'a donné envie, après tant d'années de production, d'interpréter ta propre musique et quand est-ce que c'est arrivé? Ça a été quoi un peu le cheminement de tout ça?
En fait, c'est vraiment un hasard. C'est-à-dire que, bah, tu vois, moi, à l'époque où je te parle, je me suis jamais vu comme autre chose qu'un producteur. J'aime ça, ça me suffisait. Et en vrai, la question ne s'était pas posée. Et en gros, depuis 2017, tous les ans, j'ai un label qui vient me voir en me disant: est-ce qu'on ferait pas le projet BBP producteur, tu vois? Et honnêtement, c'est une idée que je kiffe, tu vois, parce que j'adore la production, j'adore le rap, et je voulais faire ce projet-là, mais si tu veux, il y avait plusieurs points qui m'embêtaient un petit peu. Le premier point, c'est que c'est en fait très dur de faire un projet de producteur, un bon projet de producteur en France. Et les raisons, c'est au-delà des raisons, enfin des histoires d'agenda, de capter les gens au bon moment, qu'ils aient pas un album à défendre et tout, t'as le problème que quand tu fais un bête de son, en général, l'artiste le veut pour son album. Donc toi, tu te retrouves avec des morceaux un petit peu moyens que tu dois aller après défendre. Et je trouve que ça a peu d'intérêt de faire ça sous son nom. Et l'autre problème aussi, c'est que si toi, en tant que producteur, tu veux développer une DA, tu veux une proposition qui change ou qui tranche de ce que tu faisais pour les autres,
bien sûr.
Bah, c'est pas sûr que l'artiste suive, en fait, parce que peut-être qu'il va pas être inspiré par ça. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons. Et donc, en gros, bah, à chaque fois, les labels, je leur disais, en fait, pour ces raisons-là, je suis pas trop chaud, quoi. Et il y a un label qui est venu me voir en 2020, je crois. Bah en fait, le Covid venait d'arriver, qui me refait cette proposition. Donc, pareil, je leur explique pourquoi je suis pas chaud. Et ils me disent: ouais, bah écoute, tant pis, sinon, au pire, viens, on fait ton album. Et là, je leur dis: bah mais comment ça, mon album, quoi? On fait quoi? Je fais juste des prods et tout. Ils me disent: non, tu sais quoi, vas-y, réfléchis-y et on voit où ça va. Et du coup, bah, c'est vrai, je me suis un petit peu retrouvé face à moi-même. Bon, tu vois, je continue à faire des prods pour plein de gens. Mais je me suis dit, tiens, ça serait vraiment intéressant du coup si je fais mon album, dans le sens où bah, artistiquement, je suis libre d'avoir la DA que je veux, d'explorer ce que je veux, comme je le sens, et tu sais, de sortir de ce truc où je me prends trop la tête, tu vois. C'est-à-dire que quand tu t'habitues à bosser pour les gens, t'intériorises des contraintes, tu sais que tu dois respecter un univers, tu sais que t'as une petite marge pour un petit peu innover et trouver quelque chose de particulier dans leur univers, mais ça reste encadré, tu vois. Et en fait, là, ce que j'aimais bien dans ce projet, c'est de me dire: je vais faire de la musique purement instinctivement, sans réfléchir. Et en fait, ça me séduisait beaucoup, surtout après, tu vois, un aussi long run où j'ai composé pour beaucoup de gens et leur service.
Bien sûr.
Et en fait, c'est parti comme ça.
Alors, justement, ce truc d'avoir ta propre TA, c'est-à-dire ton propre univers musical, est-ce qu'avant qu'on te fasse cette proposition, consciemment ou inconsciemment, tu avais déjà des envies musicales différentes de ce que tu faisais pour les rappeurs. Est-ce que ça, ça te titillait déjà de te dire, tiens, parce que j'ai ces goûts musicaux particuliers, on va en parler justement sur les choix que tu as fait pour cet album, parce que tu as ces goûts-là, tu disais, ah, j'aimerais bien aussi faire ça, j'aimerais bien ne pas faire que ce que je fais maintenant.
Bah,
ou est-ce que c'est finalement l'occasion qui a fait le larron, quoi.
En fait, c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron, parce que moi, comme je te disais, je ne me sentais pas limité. En fait, moi, j'aime produire du rap, mais c'est la musique que j'écoute bien le plus, que j'aime le plus, donc si tu veux, c'était... Enfin, honnêtement, je ne me posais pas franchement la question, tu vois. Mais quand l'occasion se présente et que tu te laisses aller, tu te rends compte que tu vas faire peut-être d'autres choses que tu n'aurais pas faites autrement, parce que justement, tu étais limité par un genre, tu vois, entre guillemets.
Est-ce que ce choix t'amène, comme c'est le cas aujourd'hui dans le format qu'on fait, à sortir de la relative honte dans laquelle tu étais jusqu'ici? Et est-ce que ça crée une forme d'appréhension au départ, tu vois, de se dire d'un seul coup, je vais défendre ma musique, donc il faut que je m'expose, quoi?
Ouais, je vois ce que tu veux. C'est vrai que ça change un peu, surtout que tu as vu, moi, j'ai toujours été assez discret, tu vois, dans mon coin, à faire mes prods et tout. Mais après, honnêtement... Après, il faut, tu vois, c'est ça aussi. Non, par contre, ça, je l'ai ressenti plus dans la création. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en tant que producteur, tu es à l'abri. C'est-à-dire, toi, tu fais une prod et tu as quelqu'un d'autre qui va défendre une vision du monde, une vision de la musique, qui va l'assumer devant tout le monde. Et toi, tu es relativement protégé, tu vois. Bien sûr que tu peux voir passer des critiques sur ce que tu fais et tout. Mais par rapport aux artistes qui sont vraiment en première ligne, c'est vrai quoi, il y a une différence. Parce que là, tu portes, c'est toi qui portes une proposition et qui la livre au monde et qui la défend, etc. Ouais, non, de ouf.
Je te pose cette question-là parce que dès le premier morceau, dans Only God, tu parles de ça justement. Tu dis, on sent que c'est un peu une chanson pour te libérer ou te dédouaner des jugements ou des contraintes, tu vois.
Ah, c'est marrant, tu l'as pris comme ça.
Ouais, à un moment, tu dis, tu le dis, alors tu le chantes en anglais, justement sur ce choix, mais tu le dis, je m'en moque un peu des critiques, quoi, tu vois, ou comme si t'anticipais, tu vois, forcément, tu vois, les avis qui vont être dits sur ta musique, quoi. I decide if I need it. Critics, I couldn't care less. I mean, what the hell are you to question? Mind your own life and keep your opinion.
Marrant que t'aies cette lecture-là. En fait, ça, pour le coup, c'est le premier morceau que j'ai écrit pour l'album.
Ok.
Et qui est resté l'intro. Mais en fait, si tu veux, c'est plus une chanson sur l'ego en général.
D'accord.
Mais j'ai fait en sorte d'écrire chaque texte de l'album pour qu'il y ait plusieurs interprétations. En fait. Je ne voulais pas enfermer, si tu veux, un discours trop simple parce que je trouve que ça tue les œuvres. Une œuvre que tu comprends trop vite, tu t'en lasses plus vite. Et donc, en fait, il y avait cette volonté, si tu veux, que le texte puisse être interprété de plusieurs manières. Mais le sujet de ce titre, en réalité, c'est plus, tu sais, cette dualité entre être juge et partie, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'on est toujours notre propre juge de nos actions, de nos vies. Mais on est évidemment notre pire ennemi là-dessus. Et c'est plus une chanson générale sur l'ego, mais c'est marrant que tu le dises comme ça en plus en intro, c'est intéressant.
Mais c'est parce que tu citais ce truc de justement d'être à l'abri quand on est producteur et que d'un seul coup, forcément là c'est ta musique, donc dans tous les aspects, dans la production musicale, dans l'écriture, dans l'interprétation, t'es en première ligne, quoi. Donc c'est
complètement.
Pour ça.
Ouais.
Alors justement, cet album, il a une teinte musicale très particulière, pour en tout cas différente de celle pour laquelle on t'a connu justement en tant que producteur rap, puisqu'on a sur quelque chose de beaucoup plus pop avec des nuances rock, funk, parfois des traces de rap de temps en temps, justement dans certains choix de drum par exemple ou ce genre de choses. À partir du moment où on t'a donné cette carte blanche, comment tu as trouvé cette identité artistique là? Est-ce que ça a été une évidence tout de suite ou c'est en faisant des morceaux par toi-même, justement, sous ton identité 360 degrés, tu vois, que tu as réussi à trouver, justement, la direction que tu voulais donner à ta musique?
Si tu veux, j'ai essayé de faire vraiment ça de manière instinctive. En fait, je voulais sortir de trop conceptualiser, trop réfléchir. Je voulais vraiment faire les choses quand elles viennent. Et en fait, si tu veux, honnêtement, je faisais des accords et je regardais ce qui sortait, tu vois, vraiment. Et dès que j'étais inspiré par quelque chose, ça sortait. Et j'ai gardé ce qui me semblait, tu vois, le plus fort et où il y avait une forme de cohérence. Mais si tu veux, je me suis pas dit, tiens, je vais faire... Honnêtement, même quand j'ai commencé, je savais même pas si j'allais rapper ou chanter, tu vois. J'ai vraiment fait comme ça venait, quoi. Et donc, non, j'ai pas conceptualisé que j'allais faire plus pop, plus ceci, plus cela.
C'est à mesure que tu as enregistré, que tu as créé, que ça s'est défini, quoi.
Exactement. Parce que tu vois, tu parlais d'Only God, par exemple, dans la forme, ça ressemble plus à du... Enfin, tu vois, ça pourrait être une prod que j'envoie à Kanye, par exemple. Mm-hmm. Tu prends Pandora, c'est un truc que je pourrais envoyer à PNL.
Tout à fait.
Et après, effectivement, il y a des titres où là, vraiment, ça tranche vraiment. Mais vraiment au fur et à mesure, comme je le sentais. Ouais.
Et alors, justement, tu parlais du choix entre rap et chant. À quel moment ça a été très clair pour toi que tu allais chanter et que tu allais chanter particulièrement en anglais ?
Eh ben, franchement, je te jure, par STR. Ouais. En fait, genre, au partir du moment où j'ai fait une prod qui m'a inspiré, les mots, ils sont venus en anglais. Je me suis dit, je ne questionne pas ça et j'y vais à fond en anglais, tu vois. Et après, au niveau de la voix, j'ai remarqué que tout de suite, en fait, les mélos, elles venaient avec les paroles. Okay. D'ailleurs, par exemple, tu vois, je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire des top lines pour moi-même.
C'est marrant, ça.
C'est impossible. C'est-à-dire que les mots me donnent les mélodies, la mélodie me donne les mots, mais j'arrive pas à dissocier les deux opérations. Mmh. Alors que je peux le faire pour d'autres, tu vois. Mmh. Parfois, je fais une prod, je fais une top line, l'artiste, il fait son truc. Mais moi, personnellement, je suis incapable de faire ça. Les deux sont indissociables.
Et du coup, ça te paraissait plus naturel d'associer tes mélodies à de l'anglais, c'est ça
ouais,
le truc ?
Exactement.
Ok.
Ouais.
Est-ce que ça a été une... Est-ce qu'il a fallu que tu apprennes et désapprennes certaines choses, justement, dans le fait de faire ta propre musique, tu vois, de, techniquement, tu vois, par exemple, de d'apprendre à certaines techniques musicales, d'accords, certaines techniques d'écriture. Est-ce que tu sens que tu as dû te reformer à certaines choses pour lesquelles, justement, en tant que producteur, tu étais, entre guillemets, à l'abri parce que tu avais tes habitudes de travail, quoi. Est-ce que, en gros, t'es sorti de ta zone de confort, tu vois ? Est-ce que ça t'a obligé à sortir d'une forme de zone de confort, quoi ?
Je l'ai pas vraiment vécu comme ça. Mm-hmm. Parce que, tu vois, par exemple, je sais que... Tu vois, dans le rap, on a cet amour de la boucle. Et quand je fais une prod, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de pas perturber cet équilibre. Parce que t'as pas envie de perdre ce sentiment d'intensité que t'as, mm-hmm. et que moi, j'apprécie dans le rap. Et là, en l'occurrence, tu vois, je me suis autorisé des trucs. Je me suis autorisé à faire des changements de progression d'accord, à faire des ponts. Mm-hmm. Ce que tu peux faire, hein, mais qui est souvent mal reçu, tu vois. Mmh. Moi, je sais que les prods où je fais des ponts, où ça change trop, les artistes, en général, ils tiquent un peu, tu vois. Donc, ça... Mais je dirais pas que j'ai désappris. Non, peut-être le truc où je suis sorti de la zone de confort, c'est que c'était en termes de drums.
OK.
C'est pas du... Enfin, il y a des morceaux où c'est les mêmes drums, mais d'autres où c'est pas du tout ça.
Tout à fait.
Et obtenir ce son-là, bah, du coup, ça m'a... Et après, c'est vrai que j'utilisais d'autres BPM, en tout cas des trucs plus rythmés.
Oui, tout à fait. Ouais. On est sur des choses qui sont plus up-tempo, justement.
Oui, qui sont plus up-tempo, mais c'est marrant parce qu'en plus, ce n'était pas forcément une volonté, mais j'avais l'impression que j'étais plus à l'aise, moi, pour écrire sur ces BPM.
Question de feeling, comme tu disais. Oui,
exactement, ouais, c'est ça.
Est-ce que tu as. Parce que c'est la première fois qu'on t'entend en tant qu'interprète, est-ce que tu as pris des cours de chant ?
Pas du tout.
Donc, tu as vraiment été aussi à l'instinct, quoi.
J'ai vraiment été à l'instinct. Et même pour te dire, au tout début, je me rappelle du projet, quand je parlais avec le label, on s'était dit, bah, peut-être t'écris le projet et on trouvera quelqu'un pour chanter. Mm-hmm. Et plus on avançait, plus on me disait, en fait, non, c'est trop toi. Si c'est quelqu'un d'autre qui chante, ça va pas le faire, en fait.
Tu as commencé à répondre un petit peu à cette question avant, mais comment est-ce que, du coup, ces nouveaux morceaux, tu les crées ? Est-ce que c'est comme tu le disais parfois en testant des accords ? Est-ce que c'est parce que tu as une idée de thématique ? Est-ce que c'est une texture musicale qui va t'inspirer quelque chose ? Est-ce qu'il y a, ou c'est un petit peu tout ça mélangé, finalement, il n'y a pas de formule sur l'ensemble des morceaux de ce disque ?
Ouais, peut-être pas de formule, mais ça part de la musique. Mmh. J'ai vraiment besoin d'avoir la prod, et la prod, elle déclenche un truc en moi, et ça sort tout seul, très rapidement, que l'inverse. Tu vois, je ne me suis pas dit, tiens, il faudra que je fasse un titre là-dessus. J'ai fait une prod qui m'a parlé. Après, au fur et à mesure que tu avances dans l'album, tu sais que tu vas essayer de plus écrire sur ça, ou tu vas essayer de... Tu vois, qu'il n'y ait pas un doublon en termes de sens ou quoi. Mais ça part vraiment de la musique, moi. Ouais.
Est-ce que y a des choses dans ta manière de créer ta propre musique qui sont quand même des réminiscences de ce que tu as fait en tant que producteur rap dans l'approche sonique, c'est-à-dire de... trouver la bonne boucle à un moment donné ou la bonne mélodie qui peut tenir sur 4 ou 8 mesures comme quand tu le fais dans le rap. Et tu vois, ça t'a rappelé des sensations de, tu vois, de choses que tu avais déjà pu faire dans le passé.
Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on sent l'influence de mon parcours de producteur rap sur cette musique-là. Même si, tu vois, ça va être pas exactement le même genre, j'ai l'impression que dans la volonté de chercher des textures neuves, d'avoir toujours aussi cette espèce, tu sais, de transe que tu as dans la musique de boucle. Mmh. J'ai l'impression d'avoir marié cette perspective-là du rap avec un truc qui est un peu plus pop, tu vois.
Il y a quelque chose, parce que, et on va en parler, tu as notamment parlé, tu l'as cité tout à l'heure, tu as travaillé avec des artistes comme PNL. Je trouve qu'il y a parfois, sur certains morceaux, un accent qui est donné justement sur les arrangements vocaux. Tu vois, je pense notamment à un morceau comme Promises,
ouais.
Où je trouve qu'il y a vraiment un truc sur... Le fait de jouer de ta voix et presque de jouer de la voix dans l'instrumental, je crois, tu vois.
À fond. PNL, c'est une partie, c'est une partie très importante de ma carrière et c'est une influence, hein, clairement. Bien sûr.
Donc même toi en tant qu'interprète, ça t'a nourri quoi nécessairement.
Ouais, ouais, totalement, c'est sûr et certain.
Et ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, on le disait, parfois il reste des traces d'ADN de musique rap. Je pense à un morceau comme Old Republic où on entend cette fameuse snare trap, tu vois, typique de...
totalement.
Entendu chez Young Chop, enfin chez plein de gens, tu vois, aux États-Unis jusqu'en France. Ou des fois, t'as des espèces de petits éléments rythmiques que tu reprends sur des morceaux pop. Donc j'ai trouvé ça...
grave. C'est vrai, c'est vrai. Et même ce morceau, je trouve que dans l'écriture... grave influencé aussi par le rap, tu vois, complètement. That's what empires are made of. Strong belief in sharp's words. Tall buildings and big words. Il y a un truc aussi que j'ai adoré la musique rap au-delà de la production, je trouve que c'est la musique qui a la palette de sentiments la plus large. C'est-à-dire que tu vas avoir de la joie, tu vas avoir de la tristesse, tu vas avoir de la haine, tu vas avoir de la colère. J'ai l'impression que c'est la seule musique qui embrasse l'âme humaine complètement. C'est-à-dire vraiment l'ensemble des phénomènes. Là où, tu vois, si tu prends, je sais pas, la pop des 30 dernières années mainstream, c'est super binaire. C'est-à-dire que tu as l'histoire d'amour, tu as on fait la fête, et puis la vie, c'est triste quand l'amour, ça se termine. Et puis en fait, voilà, tu as ces deux angles-là. Et je sais pas, tu as l'impression qu'il n'y a pas un monde avec des injustices, avec des gens qui souffrent, avec des problèmes écologiques. Tu vois, je trouve que c'est un espèce de monde fait pour le commerce et les réseaux sociaux, mais tu vois, il n'y a rien qui transparaît d'autre. Et j'ai l'impression que le rap, tu vois, c'est la seule musique où l'ensemble de l'époque et de l'âme humaine s'exprime, tu vois. Et ça, c'est un truc auquel je tenais énormément, tu vois. Je ne voulais pas faire une musique qui me semble inauthentique ou fausse parce qu'elle est... je sais pas, centré sur un espèce de monde fantasmé qui n'existe pas, quoi, et qui est très binaire.
Est-ce que du coup, même si tu as beaucoup fonctionné au feeling, tu as été attentif justement à ce que tu allais chanter et raconter dans tes textes?
Ah ouais, c'était super important. Bah, en fait, si tu veux, moi, vu que d'habitude, je suis limité à ce qui est l'aspect production, j'ai pas mon mot à dire sur ce qui va être écrit, éventuellement sur les mélos et sur la réalisation du morceau, mais tu vois, sur ce qui est dit, non. Et là, en fait, vu que pour moi, c'était un nouveau paramètre avec lequel je pouvais jouer. Et puis même, personnellement, moi, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Et donc là, bah, à fond. Tu vois, c'est-à-dire, je voulais que dans les textes, il y ait aussi une ambition. De même qu'il y ait une ambition sur l'aspect sonore, je voulais que dans le texte, il y ait aussi cette volonté. Comme je te disais, en fait, tous les morceaux de l'album, je les ai écrits pour qu'ils puissent être lus d'au moins deux manières.
Il a été long à faire cet album, comme c'était ton premier. Est-ce que ça a été même si t'es resté au feeling, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, le temps que t'arrives à te trouver, etc., et à être certain peut-être des morceaux que tu voulais mettre dedans, est-ce que ça a été un album qui a été long en termes de gestation?
Bah, bizarrement, pas tant que ça. Okay. L'album, je l'ai écrit en à peu près 6 mois.
Ok.
Tu vois. Et en même temps, j'ai envie de te dire que ça s'est fait vite parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont sorties d'un coup, mais qu'en fait, on mûrit pendant, bah, tu vois, toute ma carrière. En fait, c'est-à-dire que je suis plus sûr de moi sur la manière dont je vais faire mes prods et ce que je vais sélectionner parce que j'ai toute l'expérience qu'il y a eu avant. Et les choses que j'ai dites, j'ai l'impression que c'est des choses qui étaient en moi et qui ont mûri depuis ouais, tu vois, ces 10 dernières années. Quoi.
Est-ce qu'il y a eu un morceau qui a été un peu pivot dans le sens où il a déclenché ou débloqué quelque chose justement sur la direction musicale que tu voulais donner à l'album?
Ouais, je pense que c'est Kill You.
Okay.
C'est le troisième morceau que j'ai fait. Et en fait, c'est le morceau où je me suis rendu compte que je pouvais chanter sur quelque chose de up-tempo. Parce qu'en fait, les morceaux que j'avais fait avant, on va dire que c'était plus proche, tu vois, de mon ADN habituel en tant que producteur. Et quand j'ai fait ce morceau-là, je sais pas, je l'ai trouvé puissant et ça m'a pas gêné que ce soit sur un truc, ouais, tu vois, beaucoup plus, tu vois, une rythmique vraiment pop électro, quoi.
C'est quoi la prod sur laquelle tu t'es peut-être le plus surpris, toi qui commences à avoir, tu vois, une certaine expérience en termes de nombre d'années, de choses que tu as pu faire. Tu t'es surpris toi-même en disant, ah ouais, je suis aussi capable de faire ça, et tu vois, c'était presque peut-être un peu insoupçonné chez toi, quoi.
Je pense que c'est Broken Blue. Ouais. Tu vois, la balade à la guitare électrique, mais en plus, qui dans la structure, je trouvais assez inhabituel, tu vois, parce que c'est un truc assez climatique, on va dire. Où ça monte crescendo.
C'est le dernier morceau de l'album.
C'est le dernier morceau de
l'album. Oui, effectivement, on est sur quelque chose sans rythmique, enfin sans batterie au début.
Ouais.
Donc oui, ça, y a, ça monte quoi, en intensité, en puissance quoi.
Et celui-là, tu vois, j'ai l'impression que ça obéit pas vraiment à une structure habituelle et c'était vraiment naturel sur comment le morceau s'est fait. Et ouais, je pense que j'aurais pas imaginé que j'aurais produit ça un jour, tu vois.
C'est quoi ou c'est quel morceau sur lequel tu es particulièrement content de ce que tu as écrit, justement, pour capter quelque chose d'un état d'esprit, d'un mood, tu vois, de quelque chose que tu voulais retranscrire.
Ouais, Broken Blue aussi.
Broken Blue aussi ?
Ouais, complètement. Je pense que c'est le meilleur texte. Je pense que c'est... Ouais. Moi, c'est mon morceau préféré de l'album.
Ok. Ouais. C'est pas anodin qu'il soit à la fin, du coup. C'est une sorte de climax de l'album.
C'est le dernier morceau que j'ai fait.
C'est le dernier.
En fait, à la base, l'album visait 10 titres. Et j'ai fait ce morceau-là dans les arrêts de jeu. Et il a donné le titre à l'album... Je trouve que c'était une belle synthèse de l'intention de l'album.
Est-ce qu'il y a eu des morceaux, un ou plusieurs, dans lesquels il y a finalement eu des idées que tu n'as jamais pu exploiter avant, avec des artistes, tu vois, qui ont rejailli ? Ou est-ce que tu es complètement parti d'une feuille blanche et que finalement, c'est des choses que tu n'avais jamais...
Non, c'était totalement feuille blanche. Ouais. Et même, tu vois, dans l'intention, je voulais... que tout part du début. Et c'est, je te dis, ce truc vraiment instinctif où je réfléchis pas et juste je fais les choses comme je les sens. Je voulais retrouver un truc, tu sais, vraiment pur de la création.
Il y avait presque un côté reboot chez toi, d'une certaine manière, de...
Franchement, peut-être un peu, ouais.
Ouais.
Et même, en vrai, ça m'a fait grave du bien de faire cet album parce que ça m'a redonné plaisir de faire des trucs dont j'avais peur de me lasser, tu vois.
T'avais eu l'impression d'être arrivé en bout de cycle sur certaines choses que tu pouvais faire en termes de production rap ?
En tout cas, j'avais le sentiment qu'il y avait une partie de la scène rap qui plafonnait. Et ça me gênait artistiquement de l'alimenter. Et en faisant ça, ça m'a moins gêné. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu cette peur de la répétition. Moi. Ça, c'est un truc, ça, c'est important pour moi.
J'anticipe un peu... ce dont on va parler après, c'est-à-dire ton parcours et certaines productions un peu notables que tu as fait, mais ces dernières années, je pense à un morceau comme Fournaise d'SCH par exemple, on t'a entendu travailler tout un instrumental autour de la guitare. Et j'ai eu la sensation que sur cet album, alors je sais pas si tu as tout fait toi-même ou non, mais il y a une grosse part qui est donnée à des basses qui sont jouées sur une vraie guitare basse, quoi, à de la guitare, etc. Tout ça, c'est des choses que tu as gérées toi-même, justement.
Absolument. Ouais. C'est marrant que tu parles de ça. Je sais pas si tu te souviens, justement, l'interview qu'on avait fait pour l'ABCDR. Trois semaines après, j'ai commencé la guitare.
Ok. Il y a une raison particulière.
Il y a une raison particulière, on peut le dire. On peut le dire. J'ai pas digéré le fait de pas avoir fait ODD. Et en fait, je me suis dit, pourquoi t'as pas fait ODD ? Parce que t'es une merde qui sait pas jouer de la guitare. Et donc, du coup, j'ai commencé la guitare.
Ok.
Et donc, ça fait 3 ans et demi que j'en joue 2 heures par jour et je veux avoir un bon niveau en guitare. Et en fait, ça répond à la question, quoi. Du coup, sur l'album, c'est moi qui joue la guitare, qui joue la basse. Et en même temps, ça m'a fait grave du bien. Pareil, tu vois, ça permettait d'apporter d'autres textures. Les cordes et même le son live, ça apporte autre chose, ça apporte une chaleur, il y a beaucoup plus d'expressivité. Et donc, c'est des choses que j'ai effectivement inclus dans mes prods.
Moi, je trouve ça vraiment intéressant sur les basses, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc par moment de presque... On a l'impression que presque d'entendre des basses slapper. Enfin, on entend les cordes, quoi, tu vois. Et on n'est tellement pas habitué à ça dans la musique pop, je trouve, parce que comme la musique pop a intégré des manières de produire du rap, justement, avec les infrabasses, les 808, etc. Et je trouve que ça fait du bien dans le sens où ça sort un petit peu du commun aujourd'hui d'entendre ça, quoi.
C'est marrant, ouais, de ouf. Alors que à une certaine époque, pas du tout.
Exactement.
Mais dans l'esprit du temps actuel, ouais, complètement.
Du coup, là, tu nous disais que tu avais appris à jouer de la guitare, ou tu t'étais, voilà, tu t'y étais mis vraiment sérieusement il y a, du coup, 4 ans de ça.
C'est ça. Ouais.
Est-ce que tu as une formation musicale de base ?
De base, non. J'ai tout appris tout seul. Je sais qu'à un moment donné, j'avais pris des cours de solfège, tu vois, pris des bouquins, parce que je voulais quand même avoir une base et pouvoir communiquer avec d'autres musiciens. Mais non, vraiment, ouais, autodidacte. Hein.
Donc, dans la plus pure tradition des beatmakers du rap, c'est ça, où on bidouille, on apprend sur le tas, quoi.
C'est ça, on bidouille, on apprend, on achète les CD pour regarder qui a fait quoi, on fait des recherches sur les gars qui ont fait les prods, on se renseigne, d'où viennent les sons, comment t'obtiens ça, des gens qui te conseillent, plus grand et tout, ouais, complètement.
Est-ce que cet album, il est le reflet aussi de ton parcours d'auditeur ? C'est-à-dire que tu penses que tu t'es dirigé vers des choses que tu aimais écouter, ou que tu as toujours aimé écouter justement, et que tu as voulu refaire à ta sauce ?
Alors oui et non, parce que moi, ce que j'ai toujours écouté, c'était beaucoup le rap. Mmh. Donc a priori, tu retrouves, même si on retrouve une part de cet ADN là, a priori non. Mais c'est vrai que dans mon parcours d'auditeur, il y a quelques projets hors rap qui m'ont quand même marqué. Je pense à Discovery des Daft, qui pour le coup, même si tu vois, moi j'ai jamais été fan d'électro, mmh, mais chez les Daft, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans, pour le coup, qui était vraiment pur. Je chantais que c'était leur musique à eux, mmh, même si après en grandissant, j'ai vu qu'il y avait des samples de certaines musiques, mais c'était digéré. Tu vois, je chantais vraiment un univers, ouais, et une patte, et ça, ça m'avait vraiment marqué. Et il y a quelques groupes comme ça, tu vois, qui m'ont marqué. Je pense à Métronomie, mmh, tu vois, pareil, ou cette espèce de pop anglaise. Avec le son analogique, synthé, je trouvais qu'il y avait vraiment une identité dans la production et ça m'avait marqué. Je pense aussi à des projets un peu transversaux, tu vois, genre Outkast par exemple.
Ouais.
C'est des gens qui m'ont énormément influencé, c'est évident. Et aussi, tu vois, Niers Barclay, mm-hmm, qui existait un peu dans le prolongement d'Outkast, mm-hmm, Cee Lo Green qui avait une voix incroyable. Mais tu vois, ça me fait aussi penser un peu à Gorillaz.
En fait, ces hybridations, ouais, à un moment donné, entre de la musique pop au sens très large et le rap, quoi.
Ouais, et moi j'entends la soul.
La aussi. Soul, bien sûr, oui, c'est pour ça que je parlais de musique pop, ouais, au sens,
ouais,
très,
ouais,
large.
Ouais.
Bien sûr, oui, la soul, oui. Absolument.
Et donc ça, effectivement, c'est des projets où je me suis... En fait, c'est marrant parce qu'en faisant le projet, je me suis rendu compte que c'est des projets qui m'avaient poursuivi. Même si j'y revenais pas tant que ça, mm-hmm, je sentais qu'ils étaient là dans un coin de ma tête.
Ils sont gravés quelque part dans ton ADN musical,
ouais,
quoi.
Ouais, 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 ouais.
Donc en fait, dans un monde idéal, peut-être que ça aurait été génial d'entendre Cee Lo Green ou André 3000 arriver sur une production de Sander Weiss, quoi.
Ah, comme jamais. Et surtout, tu vois, en sensibilité, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des bons.
J'aimerais qu'on revienne un peu justement pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être qui ne te connaissent que sous ton nom de BPP, justement, sur ton parcours. On parlait de ton ADN musical. Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs, toi, liés à la musique, en étant plus jeune ?
Moi, il y a toujours eu de la musique chez moi. Mm-hmm. Mon père, il jouait de la guitare, il était passionné. Je sais que quand ma sœur, elle est née, j'ai eu un petit clavier pour faire de la musique, mm-hmm, même si je ne m'en suis pas des masses servi. Je crois, mes parents, ils m'avaient raconté quand j'étais petit, ils m'avaient emmené à Beaubourg une fois et j'avais vu quelqu'un jouer de la batterie sur des seaux retournés. Et genre, j'avais arrêté de bouger et genre, je voulais faire ça. Et quand je suis rentré chez moi, je prenais des bassines et je tapais, tu vois, j'avais 3 ans. Donc, après, ça, c'est pas mes souvenirs perso, c'est ce qu'on me raconte, tu vois.
Des souvenirs d'auditeurs, tu vois, de chansons, d'artistes, de genres musicaux, tu vois, que ouais, petit que t'entendais.
Je sais, quand j'étais petit, Nirvana, mon père, il avait écouté à la maison Teen Spirit.
L'album Nevermind. Là,
ouais, Nevermind. Moi, j'appelais ça l'album du bébé, tu vois.
L'album du bébé, bien sûr.
Ouais, et c'est ça que ça m'avait marqué. Je sais que quand j'étais tombé aussi sur une fugue de Bach, elle m'avait transpercé. Et je chantais que la musique, c'était un truc différent de tout ce que faisaient les êtres humains. Tu vois, genre, il y avait tout ce qu'ils faisaient et la musique, c'était spécial. Je me rappelle quand je découvre le rap aussi.
Quand est-ce que tu découvres le rap et comment tu découvres le rap ?
Je découvre le rap vers 9-10 ans. On est dans le sud chez un ami de mon père. Ils passent leur journée à écouter de la musique. Et cet ami-là, en fait, me dit, tiens, écoute ça. Et il me passe 1988 de Naughty by Nature.
Ok.
Et Et donc, bah, du coup, j'écoute ça et je sais que ça m'a piqué direct. En fait, tu vois, genre, ça ressemblait à rien de ce que j'avais écouté. Les rythmes, la manière de scander, les mots, tu vois, avec la voix, les sonorités, en fait, l'énergie. Et ouais, depuis ce jour-là, j'étais piqué de rap. Après, j'ai écouté que ça.
C'était quoi, à partir du moment où tu as commencé à voir, j'imagine, c'est comme ce qui est le cas de beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent à la production, tes premiers noms de producteurs, tu sais, qui t'ont vraiment marqué et sur lesquels tu t'es dit, si je devais faire la production, j'aimerais bien sonner comme lui ou tu vois...
En fait, moi, si je dois te donner un nom, c'est Timbaland.
Ok.
C'est la discographie qui m'a le plus marqué, elle est exceptionnelle, c'est trop... Mais en vrai, moi, j'ai l'impression que c'est toute la décennie de 98 à 2008 qui m'a vraiment marqué. Parce que je trouve que dans la production hip-hop, c'est vraiment une décennie à part. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de diversité dans la palette de production dans le mouvement. C'est-à-dire que, tu vois, en plus, et ce qui est fou, c'est que tu avais plusieurs générations qui coexistaient. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Wu-Tang, ils sont toujours là. Dre, il est toujours là. Mobb Deep, ils sont toujours là. Et en même temps, tu as tout un tas de sons qui émergent et qui sont complètement différents. Je veux dire, tu as la 36 Mafia qui, dans le Sud, sont en train de développer la trap et tu vas sortir leur influence sur les 20 années qui viennent.
Bien sûr.
Tu as des variantes de sons Sud avec Manny Fresh et Cash Money.
La bounce music de la Nouvelle-Orléans.
Musique de la Nouvelle-Orléans. Tu vas avoir au Texas, la School Up Clip qui est déjà en place, qui commence à créer un son. Tu vas avoir en Virginie, Pharrell qui vient avec Clips, qui ramène quelque chose. Tu as Timbaland et Missy qui proposent encore autre chose.
Tu parlais d'Outkast avec la Dungeon Family.
C'est Outkast. Enfin, et en fait, tu sais, moi, quand je suis auditeur à cette époque-là, genre, j'écoute tous les albums et à chaque fois, j'ai l'impression d'entrer dans un monde, en fait. Genre,
j'ai l'impression de partir, de découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois.
Tu sais, genre, comme si chaque ville a un terroir, quoi. Ouais. Tu sais, genre, les mecs, ils ont un son, ils ont des sonorités, ils les exploitent différemment, ils ont des BPM, une manière de rapper, une manière de chanter. Et genre, en fait, cette époque-là, je trouve c'est complètement dingue. Et ça, moi, je sens que c'était... Ce que j'attends de la... Mes attentes de la musique sont vachement basées là-dessus, en fait. Et tu vois, à partir du moment où, en gros, tu vas avoir le crunk qui apparaît, puis la trap Sex Luger, j'ai l'impression qu'ensuite, il y a des grands mouvements qui vont guider un peu tout le monde. Ouais. Et on perd ce truc où tu avais de la musique qui était très régionale.
Ouais, parce que je pense qu'il y a eu l'arrivée d'Internet qui a...
Exactement.
Qui a réduit l'échelle du monde, l'échelle des régions aux États-Unis, et qui a en fait gommé ces disparités locales.
Ces spécificités,
quoi.
Ouais, tu vois, qui partout ça, ouais. Et qui faisait que la musique était trop vivace, quoi. Il y avait trop, c'était fou, je kiffais trop. T'achetais un album, tu savais que t'allais dans un monde. C'était sûr.
Quelle est ta production préférée de Timbaland, du coup?
Alors en fait, déjà, c'est simple. J'ai une playlist de 30 titres de Timbaland que j'écoute régulièrement pour me rappeler que je suis nul. Et après, si je devais en choisir une, c'est dur. Mais voilà, je sais que Try Again de Alia, c'était... C'est trop. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself? Tu sais, ça commence toujours de manière un peu minimaliste. Et puis j'aimais trop comment il construisait, il rajoutait des couches. Et chaque élément qui vient, il a un rôle mélodique, mais il apporte surtout une texture, tu sais, un son qui te fait directement voyager. Il y a vraiment chez lui cet amour de chercher des sons de batterie. Il fallait voir à l'époque les sons de batterie qu'il avait par rapport aux autres. Il sonnait comme personne. Là, tu as une espèce d'intro. Et puis après, tu as cette espèce de synthé qui sonne comme une voix, un truc guttural, analogique. Ouais, il empile des trucs. Je sais que sur l'entrée du deuxième couplet, il y a cette espèce de guitare basse aussi qu'il utilisait souvent. Mais ouais, non, fou.
Cette prod est encore jusqu'à aujourd'hui inégalée.
Ouais, très vieillie, super bien.
Tout à fait. Quand est-ce que tu as franchi le pas? À quel moment, toi, tu es passé d'auditeur à vouloir devenir musicien et vouloir faire de la musique?
Bah, franchement, assez vite. À 13 ans, je faisais des prods. En fait, j'avais rencontré mon pote, on était passionné de musique, on voulait faire de la musique. Au début, on s'est dit, on fait un groupe de rap. Et puis, en fait, trop petit, on ne savait pas vraiment quoi raconter, mais on voulait faire partie du truc. Et puis, on se dit, mais viens, on fait les trucs qu'il y a derrière, quoi. On fait les prods et tout. Et donc, franchement, à 13 ans, on faisait des prods. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté, quoi.
Est-ce qu'il a fallu un certain temps pour te dire que tu avais passé un certain niveau pour proposer tes productions et les faire écouter? Est-ce que tu as eu une forme de syndrome de l'imposteur où au début, tu disais, ouais, non, en fait, c'est pas ouf, il faut que je progresse, j'ose pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu étais assez vite confiant parce que tu étais comme souvent, tu vois, adolescent, t'es jeune et tu t'en
en
fous.
En fait, ouais, c'est surtout ça. Ouais. Non, en fait, c'est pas que tu t'en fous, mais je pense même quand t'es jeune, t'as peu de recul sur toi. Mm-hmm. Et en fait, toute la difficulté, j'ai envie de dire, du métier d'artiste, c'est d'être capable d'avoir du recul sur ce que tu fais. Mm-hmm. Or, précisément, quand tu commences à 13 ans, le recul que t'as sur ce que tu fais, il est inexistant.
Bien sûr.
Et donc, en fait, bah, t'es dans une folie où tu crois que ce que tu fais, c'est génial. Donc, en fait, tu fonces.
Ouais.
Tu vois, et je te dirais que finalement, le syndrome de l'imposteur, en fait, il vient plus tard. Mmh. Il vient sur le moment où je commence à avoir du recul et où je veux devenir meilleur. Mais toutes les premières années, non, on confie à fond, on y va.
Donc, tu as vite placé assez rapidement tes productions?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par placer. Mmh.
Je sais pas, avec des mecs de ton coin.
C'est ça, je bossais avec des gens localement, ouais. Tu vois. Moi, je suis de Cergy-Pontoise, donc tu bosses avec des rappeurs du coin, de Pontoise, tac, on se rencontre au lycée, tu fais des prods, tiens, c'est intéressant, hop, on fait des trucs. Puis tu rencontres du monde, et puis t'avances, et puis...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Puis tu te prends des murs quand tu as un certain step, donc tu retournes travailler, etc. Ouais, et puis ça se fait naturellement, quoi.
Il y a quelque chose d'important dans ton parcours. Et j'en parlais aussi avec quelqu'un que tu as peut-être croisé à l'époque, mais en tout cas dont le nom te dirait quelque chose, qui s'appelle Stani, qui a bossé avec la section d'assaut.
Ouais, ouais.
Et en fait, vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes au tout début de votre parcours, vous êtes parti à New York.
Ok, ah, je savais pas.
Ouais, lui aussi est parti à New York entre le milieu et la fin des années 2000.
Ok.
Pour revenir ensuite travailler notamment avec la section d'assaut. Et je sais que toi aussi, tu as eu ce cheminement. Est-ce que tu peux raconter comment tu as eu cette opportunité d'aller à New York et qu'est-ce que ça t'a apporté?
En fait, j'étais sur le clip d'un rappeur de Pontoise qui s'appelle Abbas. Et les mecs qui clipaient, c'était des mecs de Saint-Ouen-le-Monde que je connaissais. Les réalisateurs, ils m'avaient dit, passe son studio. C'était un studio sur Paris, tu sais, avec fond vert et tout. Anecdote, à cette époque-là, sur le canapé, il y a Al Capote qui attend.
C'est rigolo, ça.
Et je croise Alka. Évidemment, il ne sait absolument pas qui je suis. Mm-hmm. Et grave marrant. Et en fait, sur ce clip-là, je rencontre OG Enz, qui faisait des prods aussi, mm-hmm. tu vois. Et donc, on se rencontre, on échange musique. On se fait écouter nos prods, ça passe bien. Et il me dit qu'il a un cousin aux États-Unis qui s'appelle Bass et qui peut nous aider à placer des prods aux US. Et donc, en fait, on commence à envoyer des prods à son cousin. Et un jour, je reçois un mail justement de Bass qui me dit en fait, ouais, je kiffe les prods, finalement, je vais rapper. Et vas-y, chaud. Et puis, du coup, après, il me dit vas-y, hein, quand tu peux, passe. Et donc, j'avais passé un été chez eux. Et j'ai fait ensuite, pendant mon M2, mon stage là-bas. Et donc, j'ai passé 6 mois chez lui. Et donc, c'était marrant parce que, du coup, en fait, ce que je savais pas, c'est que le frère de Bass, son grand frère Ibrahim, mm-hmm. c'était le manager de J. Cole, en fait.
Tout à fait.
Et que J. Cole avait signé chez Roc Nation, tu vois, genre un an et demi avant. Et bah donc du coup, j'étais avec eux, quoi. On faisait de la musique, j'ai vécu une partie de leur parcours, l'enregistrement de Silent Story, en studio avec eux quand ils reçoivent les voix de Missy sur Nobody's Perfect. Tu vois, des trucs de fou. Mm-hmm. Il y avait Chamonix dans le studio, il y a virtuellement Jay-Z qui a une poignée de main. L'été où je repars 6 mois, ils sont en tournée sur le Club Paradise Tour avec Drake. Mm-hmm. Drake, il invite sur la tournée Meek Mill, 2 Chainz, French Montana. Enfin, et moi, je vois ces gens-là, en fait. Et alors, moi, mon rêve, évidemment, c'est de placer aux States. Parce que ça, c'est vrai. Même si j'écoutais du rap français, moi, j'étais vraiment... Enfin, c'est le rap US que je préférais en termes de production, en termes d'attitude, en termes de tout, tu vois. Et donc là-bas, j'ai appris, j'ai sorti et j'ai aussi rencontré. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que moi, en fait, je rencontre Screech aux États-Unis.
Donc Screech de Demolition.
Demolition, fondateur de Demolition et Lucas, en fait, les deux. Mm-hmm. Parce que justement, Mike Corny, tu vois, qui est un rappeur de Cergy, mm-hmm. qui était avec moi au lycée, mm-hmm. Il fait le Rap Contenders, qui était filmé par Skrit, justement. Et il me dit, ouais, j'ai rencontré un gars, il cherche des contacts, il veut filmer des gens aux États-Unis. Je sais que toi, tu es là-bas, que tu connais du monde, est-ce que tu peux l'aider? Et donc, du coup, je dis, bah, vas-y, pas de souci. Et donc, Skrit m'appelle, et on se rencontre là-bas. On sympathise, et c'est lui qui me parle de la section, qui me parle de Dawala, qui est un truc que j'ai assez peu suivi, en fait, parce que moi, je suis vraiment dans ma matrice aux États-Unis et tout. Et donc, c'est en rentrant, finalement, parce qu'il faut rentrer, que je rencontre Dawala par l'intermédiaire de Skrit, qui recherche un compositeur, et que du coup, je signe chez Watibé.
Donc, tu vas signer en édition, c'est ça,
ouais, c'est ça.
Chez Watibé. Tu vas y rester...
3 ans.
3 ans, c'est ça, ouais, ce que j'allais dire, ouais. Tu vas beaucoup produire sur des compilations pour Shinsekai, pour Dr. Berries.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience chez Watibé en tant que producteur maison?
Alors, il y a 2 trucs aussi. C'est que quand on est aux États-Unis, Skrit, il vient de découvrir Vald et il me fait découvrir Vald. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a aussi un coup de cœur sur son écriture et son énergie. Et donc, en fait, moi, mon époque Watibé, c'est 2 choses. C'est d'un côté, bosser avec Vald, parce qu'on s'est rencontrés, qu'on devient amis, qu'on s'entend, qu'on partage une ambition, et bosser chez Watibé. Et l'expérience Watibé, je te dirais que, en fait, c'est pas forcément le son que j'aimais ou que je cherchais, mais c'est le son que je dois fournir, parce que tu as des artistes qui doivent faire des choses, et je suis le producteur maison. Et donc, en fait, ça m'a forcé à... Comment dire ? Bah, tu vois, justement, à prendre du recul sur ce que je faisais et à comprendre que j'étais au service des autres. Là où, quand tu commences en tant que producteur, tu veux développer ta patte, tu veux imposer ta vision de la musique. Et ce que ça m'a appris, c'est que bah, bosser avec un artiste, c'est pas imposer quelque chose.
Bien sûr, c'est partager, un dialogue.
C'est exactement, c'est un dialogue. Tu dois faire un pas vers lui, tu dois le servir pour que lui il soit à l'aise et qu'il puisse faire la meilleure offre possible, entre guillemets. Et donc, même si moi, je l'ai mal vécu sur les premières années, tu vois, où j'étais pas forcément bien, mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris, justement, à être plus à l'écoute des autres, à leur laisser de la place, à faire respirer la prod, à pas être dans la surenchère aux éléments et à la démonstration technique. Et donc, non, très instructif, c'était super important, je pense, ça m'a formé.
Alors justement, tu parlais de Vald et je voulais effectivement qu'on en parle parce que c'est un point aussi crucial dans ton parcours. Déjà, avant de parler de votre collaboration avec Vald, parce que tu... Alors, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ou si vous vous rencontrez à ce moment-là, il y a une autre personne importante, c'est Dolor.
En fait, c'est Skrit, le point de balance.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, lui, il connaissait Dolor.
Mm-hmm.
C'est lui qui découvre Vald et qui lui fait ses premiers freestyles.
Mm-hmm.
Et moi, j'en compte Skrit, qui du coup me présente les deux.
Okay.
Et c'est-à-dire que lui, en fait, il avait présenté Dolor à Vald. Donc, Dolor et Vald se connaissaient. Et on se rencontre, bah, en fait, tous les trois chez INCH.
Mm-hmm.
Qui habite juste à côté de chez Dolor. Et donc, la première fois que je vois Dolor, c'est parce que Val me dit, il faut que tu passes rencontrer ces types-là, tu vois.
OK. Et donc, c'est quelqu'un, Dolor, qui est important, puisque vous vous êtes suivi encore jusqu'à, je pense, notamment l'album d'Acapote, Monument, sur lequel vous produisez tous les deux. C'est une question que j'aime beaucoup poser quand j'ai un producteur à ta place, devant ce micro, qui a l'habitude de travailler avec un autre producteur. C'est, d'après toi, c'est quoi les qualités musicales de Dolor qu'il a réussi à développer qui vous permettent de vous compléter? C'est-à-dire, c'est quoi son forté à lui? C'est quoi ton forté à toi? Des choses que lui, instinctivement ou sur lesquelles il a travaillé, il arrive à faire, sur lesquelles tu as potentiellement des lacunes où tu vois, où tu sens que lui, il a des facilités et inversement, quoi, tu vois.
Je dirais que là où il excelle plus que moi, c'est que lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus de la culture du sample. Déjà, il est d'une autre génération que moi. Il est la génération au-dessus.
Ok.
Donc, tu vois, moi, où je me prends le rap des années 98 à 2018, lui aussi, il se les prend. Mais lui, il connaît mieux la période d'avant. Tu vois, il a plus écouté les débuts du Wu-Tang, les débuts de Mobb Deep, toute une autre école. Donc, je pense qu'il a cette sensibilité-là. Il a une meilleure culture boom-bap que moi. Et je te dirais, ouais... Parce que lui, en fait, il a accumulé des samples sur des vingtaines d'années, tu vois. Là où moi, j'avais moins ce rapport-là. Tu vois, moi, les gens que j'ai vraiment aimés dans la production, c'est des gens qui imposaient une patte. Et moi, j'étais plus sur la recherche de textures que je pourrais utiliser pour composer que de samples. Donc, je pense que, ouais, en termes de culture de samples et de connaissance du mouvement boom-bap, ouais.
Ok. Et donc, au contraire, toi, tu as pu lui apporter justement ce dont tu parlais, les textures, peut-être d'autres manières de faire groover les prods.
Ouais, et la structure, de les faire plus vivre, de les faire évoluer. Vu que j'ai tu vois, du coup, plus une connaissance des instruments et de la théorie, de comment faire vivre une boucle plutôt que juste la trouver.
Ouais, tout à fait. Et donc, effectivement, le troisième larron, qui est Vald à cette époque-là, en quoi ça a été aussi une expérience importante pour toi de travailler pendant quelques années avec Vald?
Bah, si tu veux, c'était ce truc, comme je te disais aussi, moi, vu que j'ai grandi avec en modèle ces binômes d'artistes-producteurs, vu qu'on se croise au début, bah, l'ambition, c'est comment ensemble on crée un univers, comment on crée une proposition artistique, qu'on la défend et tu vois, qu'on va au bout. Et donc, ouais, le fait de se rencontrer au début et de construire les choses ensemble, bah, c'était un petit peu le truc dont je rêvais, tu vois.
Et c'est vrai qu'avec lui, vous allez commencer à poser les bases de plein de choses très perchées quoi, dans le son Val, des choses, on parlait de texture, des choses très boueuses, des choses très, justement, sur cet univers très, très absurde et très sombre qu'il peut avoir parfois. Ouais, je pense que vous posez les bases du son Vald.
Ouais, du son NQNT.
Voilà, exactement, du son NQNT, exactement. Et même toi, de commencer à développer ta patte, finalement, avec un artiste comme lui, quoi. Ce serait quoi là où les prods un peu emblématiques, justement, de cette période avec Vald?
Les prods emblématiques de ça? Bah, je te dirais Promesse. En même temps, c'est dur parce que vu que le projet de Vald, c'était un petit peu, tu vois, de pas tomber justement dans un truc trop lisible où ça, tu vois, il y avait un petit peu tout. Il y avait de temps en temps du boom bap, il y avait de temps en temps des trucs plus trap, des trucs avec des samples, tu vois, d'orchestre très baroque et tout. Je sais pas, franchement, c'est dur. Moi, en tout cas...
À titre personnel, peut-être, celle que tu, ouais, vois, tu retiens.
Ouais, moi, je trouve que ce qu'on a fait, ce qui vieillit le mieux, c'est Si j'arrêtais. Je veux pas faire partie de la jet set. Je coupe ma sobies au jet 27. À la limite, mais c'est cadavérique que cette ambiance de pète sec. Je suis comme paralysé. Je trouve que Si j'arrêtais, elle vieillit plutôt bien.
Et puis, en plus, ça arrive... à la toute fin de votre collaboration.
C'est ça, c'est la fin, ouais, en plus. Complètement. Ouais.
Puisque ça sort sur Agartha et t'es déjà sur autre chose, toi, à ce moment-là.
En fait, tous les deux. C'est-à-dire que lui, il est déjà vers autre chose, son équipe pose dans une autre direction. Et ouais, c'est ça, c'est là où les routes commencent à se séparer. Ouais.
Moi, ce que j'aime beaucoup sur Si j'arrêtais, c'est qu'il y a une composition mélodique assez simple, mais entêtante. Et tu parlais, tu vois, de savoir faire évoluer ses instrus. Et ça joue beaucoup plus, je trouve, sur la rythmique. Puisque tu as 8 premières mesures où t'as une rythmique telle qu'elle est, et puis après tu rajoutes des éléments en contre-temps, etc. Ensuite, donc je trouve que c'est presque là-dessus que t'as réussi à faire évoluer la prod.
Ouais.
Comme Si j'arrêtais.
Et bah, cette prod-là, tu vois, c'était un petit peu la singularité de la boucle de base. Ensuite, comment, en faisant rentrer la basse et en soulignant la mélodie d'une autre manière, tu crées un truc assez immersif, tu vois.
Ouais.
Et puis après, ouais, l'aspect mélodique aussi de ce qu'il fait sur le refrain. Ouais, je trouve que c'est ça la force du morceau.
Évidemment, on arrive à une autre institution très importante du rap français dans ton parcours, c'est évidemment PNL.
Ouais.
Tu arrives à produire PNL, c'est sur l'album Dans la Légende.
Ouais.
Comment tu as réussi justement à rentrer en contact avec eux et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aussi travailler et composer pour eux et avec eux?
Bah, c'est un peu lié à ce que je te disais, c'est-à-dire que moi, je les découvre avec Je Vis, Je Viscère. Chants qui sont en train de poser les bases d'une musique qui n'a pas d'équivalent, qui font un truc vraiment personnel. En plus, sur ce qu'ils dégagent, textuellement, ce qu'ils proposent et tout, ça me parle. Et là, je me dis, en fait, bah, s'il y a un artiste avec lequel tu vas pouvoir créer un son, bah, en fait, c'est eux, quoi. C'est sûr et certain. Et vu qu'à ce moment-là, moi, tu as vu, la musique, ça commence à devenir compliqué, j'en vis pas vraiment.
Donc, c'est l'époque où tu es signé chez Watibé, c'est ça?
C'est la fin de mon contrat chez Watibé. Okay. Le divorce avec Vald, tu vois, il est déjà acté. Et donc, moi, en fait, si je ne trouve pas un moyen de faire des choses, d'une part, qui me plaisent et qui potentiellement peuvent me permettre d'en vivre, ça va être compliqué de continuer la musique, tu vois. Et donc, bah, je me dis, vas-y, tout pour le tout, et on a 6 mois de contrat. 6 mois, je ne fais que des prods pour PNL et puis on voit où ça mène. Et je vais sur le Facebook, il y a une adresse. Je récupère l'adresse et j'envoie des prods, quoi. C'est si simple que ça.
Et c'est les prods qu'on va retrouver dans La Légende, justement?
Et c'est... alors moi, en fait, quand j'envoie, ils n'ont pas encore sorti Le Monde Chico.
OK.
Et donc, je reçois une réponse, un mail qui me dit, bah, franchement, la prod, elle est grave bien, mais ça va être juste pour l'album qu'on prépare, là. Ce qu'on fera, c'est pour le prochain. Et donc, ouais, j'envoie plein de prods à ce moment-là. Et c'est, ouais, les sons qui finiront sont dans la légende. Ouais.
Et donc, l'histoire avec PNL, c'est vraiment l'histoire d'un match musical entre ce qu'ils arrivent à t'inspirer, toi, justement, comme tu disais, parce que tu sens qu'il se passe quelque chose.
Ouais.
Et c'est presque un peu, je sais pas si on peut dire une réinvention pour toi, mais il y a vraiment, d'un seul coup, la possibilité pour toi de chercher d'autres choses. Et il s'avère que ça match avec eux, quoi.
Il y a la possibilité de faire autre chose. Et je dirais même, il y a une sensibilité globale.
Okay.
Parce que c'était leur son. Mm-hmm. Mais aussi ce qu'ils disaient et comment ils le disaient. Il y a vraiment un truc dans leur musique qui m'a touché et j'ai senti, je sais pas comment dire, qu'il y avait un lien, quoi.
Ouais, c'est vraiment là du ouais, feeling pur,
ouais,
quoi.
Ouais, complètement. Ouais. Et à partir de là, ouais, le lien musical, il est évident pour eux aussi. Et puis après, on se parle, ils chinent chez eux et puis le lien humain, il est évident. Enfin, c'est assez bizarre. Il y a des fois où
c'est presque ouais. C'est spirituel.
Ouais, c'est ça. C'est fou.
Ouais. Et donc, oui, donc, tu produis sur Dans la Légende, tu produis sur Deux Frères. Mm-hmm. Un peu la même question que je t'ai posée pour Vald, c'est quoi aujourd'hui peut-être la production pour PNL sur laquelle avec le recul, tu vois, tu as le plus de satisfaction sur la direction que tu as voulu donner, sur l'alchimie avec eux, voilà.
Ça, c'est dur parce que, comment dire, tu vois, l'énergie Dans la Légende et Deux Frères, c'est des énergies vachement différentes.
C'est vrai.
Et j'en suis content pour différentes raisons. Après, moi, je pense que je te dirais, pour les moments que j'ai vécu, Nara, parce qu'en fait, c'est une prod où tout bascule pour moi. C'est-à-dire où je sais que je vais pouvoir continuer la musique, que j'ai plaisir à en faire, que c'est le premier gros succès commercial que j'ai, que je la découvre à la fin de DA comme tout le monde, et que je suis trop content. Je te dis, émotionnellement, c'est là. Mais après, ouais, j'en suis quand même très content aussi. Hein. Tu vois, musicalement, Nara, je trouve ça vieillit super bien.
Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire.
À partir de 2017, il y a jusqu'à au moins 2019-2020, il y a un arc qui s'ouvre pour toi où tu deviens d'un seul coup un producteur demandé sur des albums. Tu as bossé avec Timal, tu as bossé avec Ornette, tu as bossé avec Moa La Squale, tu as bossé avec plein de gens comme ça justement où tu fais du placement. Avec le recul aujourd'hui, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, même si c'est toujours le cas. Est-ce que ça t'a plu justement d'être dans ce fonctionnement-là finalement? D'être, je ne sais pas si c'était vraiment à la commande ou pas, ou s'il y avait vraiment aussi une forme de collaboration, tu vois, mais mm-hmm. d'être dans ce système économique-là qui est celui de plein de producteurs, tu vois.
Moi, j'aimais bien, tu sais, comme je te dis, visiter des univers avec un artiste. Tu vois, ce que j'aimais bien, c'est que le son Timal, c'était pas du tout le son que j'avais avec
Dinos
ou Damso ou PNL, tu vois. C'était autre chose. Et tout ce qui me permettait d'expérimenter, de chercher d'autres choses, bah, en fait, c'était un plaisir. Parce que comme je te disais, moi, le problème que j'ai eu, c'est que je voulais pas finir comme Lil Jon ou Lex Luger à faire, si tu veux, une prod pendant 3 ans et qu'après, on n'en puisse plus et que tout le monde m'évite, tu vois. Je voulais aussi toujours garder ce truc de vivant, comment avec un artiste, on va lui trouver un son et on va prendre plaisir à développer son univers et à s'éclater parce que nous, on continue à explorer quelque chose, tu vois.
Et est-ce que, justement, en fait, je trouve que sur cette période-là, notamment avec des artistes comme Timal et Ornette, il y a un peu, c'est pas une critique négative ce que je vais te dire, il y a un peu un truc de variation parfois sur le même thème d'une instru à un autre. Ça peut arriver que parfois, tu vois, sur les schémas de comment fonctionnent les productions, parce qu'en plus, c'est chez des artistes, notamment Timal, qui affectionne la trap, donc on est sur des arpégiateurs, tu vois, ce genre de choses.
Ouais, ouais.
Il y a un peu ce truc justement de variation, ça peut arriver d'un titre à un autre. Est-ce que voilà, il y a une production en particulier justement dans cette manière de faire du son qui encore aujourd'hui te satisfait, tu vois, tu t'es dit, j'ai réussi à toucher du doigt quelque chose justement de ce que je voulais faire, accomplir avec eux.
Franchement, Ornette, je pense à toi et Maghrébin.
Ouais.
Franchement, c'est deux prods dont je suis bien content et je pense que c'est des morceaux qui sont importants dans sa discographie.
Je suis dans mon bolide, je pense à toi. J'ai charme mon bolide, je pense sur moi.
Ouais, je pense à toi, ouais, même dans l'approche de production,
ouais.
Je trouve qu'il y a quelque chose qui est signature, quoi, même
ouais,
pour
ouais,
toi.
Ouais, 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 complètement. Et Timal, on a fait beaucoup de morceaux ensemble.
Oui.
Mais franchement, la 8, qui est un freestyle. Je trouve, pareil, on a capté un truc. Et parce que Timal, c'est un artiste assez clivant. Il y a des gens qui avaient du mal avec son grain de voix et sa proposition. Moi, je kiffais parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, tu vois, non réfléchi, instinctif, de vrai dans sa musique.
Ouais, il y a quelque chose qui sort des tripes chez
Timal. Ouais, complètement. Et que je kiffais beaucoup. Et je trouve que, tu vois, sur la 8, on a un bon équilibre entre ça sort de ses tripes. Techniquement, c'est maîtrisé. J'ai l'impression que c'est vraiment le pic de sa formule pour moi, tu vois.
Celle aime la baisse, rouillard, au bon char, j'ai viscère la veste mouillée, j'ai pas besoin de montrer que je suis le best ou pas, comme toi, par la police dans la tête fouillée.
J'ai envie qu'on parle maintenant d'un artiste qu'on a cité tout à l'heure, que t'as croisé sur un canapé dans un studio, c'était Al Capote justement. Ouais. Donc en 2019, vous sortez Monument, que vous réalisez justement avec Dolor.
Ouais.
Comment vous avez eu l'opportunité justement de travailler du coup sur un album entier avec Al Capote?
Alors en fait, donc déjà Screech connaît bien Alka aussi.
C'est vrai.
Dolor et Vald étaient des gros fans d'Alka. Moi, je connaissais de nom. Je sais qu'il était chez Neochrome. Neochrome, moi, quand je suis petit, tu vois, c'est quand même un truc important. Quand je suis au collège, je sais que c'est un gros truc, ça fait rêver. Je sais qu'ils ont signé cette Gecko qui a Saint-Ouen-l'Aumône à côté de chez moi. Donc, tu vois, c'est un truc qui existe dans ma tête. Mais je m'étais pas forcé, j'avais pas eu l'occasion de me plonger plus, tu vois, dans ce que faisait Alka. Et donc, en fait, Vald et Dolor me font découvrir Al Capote. Et à ce moment-là, tu vois, en 2018, il y a un regain d'intérêt pour Alka, notamment au travers des feats avec Vald, qui introduit Alka à un nouveau public. Et on se dit, bah, s'il y a un moment où Alka peut faire un bête d'album et exploser, tu vois, c'est maintenant. Et donc, on se dit, faisons un album que Alka finisse pas comme un roi sans couronne, tu vois. Et donc, on le rencontre. Bon, Alka, tu vois, il sait que je sors de PNL, de Damso, de machin, de trucs. Donc, il est chaud. Et donc, ouais, du coup, on va travailler l'album ensemble, tu vois. Et en travaillant avec lui, je me rends compte... Bon, déjà, c'est un rappeur super talentueux, qui écrit très vite, qui tient à poser en one-shot. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a une maîtrise du rap, mais qui, en même temps, je sens qu'il a besoin d'être guidé artistiquement parce que ça peut aller vraiment dans plein de directions. Et c'était cool d'avoir l'opportunité, justement, de réaliser pour essayer de le faire aller dans des directions où il n'aurait pas forcément cet activement, et en même temps faire un album, si tu veux, qui soit homogène, où il y ait une proposition, quoi.
Qui est homogène et qui, en même temps, justement, je trouve, vous essayez plein de choses avec lui, et même des choses que, tu vois, genre, typiquement le morceau avec Philippe Catherine,
ouais.
C'est des sonorités qu'on n'a pas entendues dans d'autres propositions que tu as fait avec d'autres rappeurs.
J'évite la tôle, j'ai du toupé, je mange de la sole et du rouge, et c'est pas à l'école que j'ai pu fourrer, je contrôle même quand je suis bourré. Je mets mon tablier de bouche et quand je serai plus en forme, je bougerai.
Moi, le risque aussi sur un album d'Alka, c'est qu'il avait fait Sadisme et Perversion avec DJ Widim, qui était un très bon projet. Et moi, ce que je voulais pas, tu sais, c'est faire un album à rallonge avec que du Alka classique, qui au final allait lasser, tu vois.
Oui, c'est de le faire sortir de ses habitudes, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que tu vois, je sais qu'il peut bien le faire, et on aurait pu prendre 15 prod trap et lui faire ça, et on sait que la fanbase radicale d'Alka aurait été super contente, mais je pense que ça lui aurait pas rendu service en soi, tu vois. Et je voulais vraiment proposer un album qui soit un vrai album où Alka propose des choses tout en restant lui-même, parce que bien sûr, il n'était pas question de...
Oui, de le dénaturer.
Exactement.
Non plus. Ouais. Mais alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres prises de parole, mais j'aime beaucoup, moi, justement, la réalisation sur cet album-là pour ce parti pris. C'est-à-dire d'avoir quelque chose d'homogène, parce que vous êtes tous les deux à la réalisation et parce qu'il y a vos idées derrière, mais que d'un morceau à un autre, il n'y a pas de bis repetita. Et ça sent particulièrement dans les prods.
Super,
tu vois, dans les prods, je trouve ça... Un morceau comme Cicatrice, avec cette ambiance très spatiale, années 80, tu vois. Le jeu sur les guitares, sur Jamais ou sur Aigle. Enfin, d'un morceau à un autre, il y a des textures, il y a des directions musicales, des espèces de nuances musicales qui sont différentes. Et je trouvais ça intéressant, parce que l'album arrive à se tenir malgré cet éclectisme, quoi. Il est homogène et éclectique à la fois, en fait, l'album. C'est ça que je trouve intéressant.
C'est ça. Et je trouve, en gardant du Alka, qui fait des schémas de rimes magnifiques, qui fait des bêtes de couplets, et qui assume, mais sans avoir ce côté redondant, tu vois. Parce que je pense que c'est ça, un petit peu, la limite sur certains projets, c'est la redondance de la proposition.
Est-ce qu'il y a déjà un rappeur qui t'a surpris dans le choix de prod, tu vois, dans les palettes que tu pouvais donner, les packs? Est-ce que parfois t'as été surpris par dans l'ensemble de ta discographie? Alors, je me suis amusé à les compter, on est pas loin de 200, tu vois, placements en un peu plus de 10 ans, mais voilà, est-ce que, je sais pas, il y a un truc spontanément, ou en prenant le temps d'y réfléchir, d'un truc où t'as pu être surpris justement par le choix d'un rappeur dans une prod que tu lui as filé?
Bah ouais, Je te dirais, la plus grosse surprise, c'était 91 de PNL.
J'emplace VR par JR, je suis loin de Dallas. Je foque l'esclavage, je revends la blanche à Obama. Je refuse qu'on soit soumis, je sors le gala. Je suis un lion, pas un mouton.
En fait, j'en avais parlé avec Tariq, tu vois, qui m'avait dit, tiens, ça serait bien qu'on essaye d'aller un peu dans l'univers Scarface, etc. Et je voulais, bah, forcément, ça fait sens, tu vois, par rapport au thème, par rapport à leur ref et tout. Et je t'avoue que quand je fais la prod, j'ai vraiment une hésitation avant de l'envoyer. Je me dis, là, il y a vraiment moyen que je me fasse insulter, en fait. Genre, le BPM est super rapide. En même temps, j'étais content de la prod parce que, tu vois, en plus, il y a un pont. Je joue avec pas mal de synthé. Je trouve qu'elle était vraiment riche, tu vois, et qu'elle était pleine de couleurs et tout. Et je me dis, là, c'était dommage. J'abuse, tu vois. Et je l'envoie. Et bon, voilà. Et kiffés en font un morceau. Et franchement, j'ai vraiment eu le doute, tu vois. D'habitude, quand j'envoie un truc, je suis assez confiant, tu vois. Mais là, là, j'ai vraiment eu un doute. Ouais.
Et finalement, bien t'en as pris, puisque ouais. Le morceau
complètement.
A eu sa vie, ça a été un, ça a été un carton. Et,
c'est ça.
Et c'est un des morceaux, effectivement, qui détonne le plus, peut-être, dans leur discographie, mais qui fonctionne très bien, en plus, sur Deux Frères, et qui est vraiment très réussi, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, on est sur des BPM élevés.
Ouais.
Qu'on retrouve en plus dans ton nouvel album, donc ça c'est intéressant.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, avec cette sonorité un peu de pop synthétique.
Ouais, c'est ça.
Mais qu'on retrouve cet univers PNL, de pad assez planant, etc. Donc je trouve qu'il y a. C'est parfois ça aussi la musique, c'est parfois une question d'équilibre dans les hybridations, quoi.
Complètement.
Donc là ça marche bien.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'était. Sur le BPM, j'ai vraiment eu chaud quand même.
T'as utilisé une interrogation jusqu'au dernier moment.
Ouais, ouais.
Dernier artiste dont j'aimerais qu'on parle, parce qu'on est sur du très récent, c'est Dosset.
Ouais.
Avec qui tu avais déjà eu l'occasion de travailler, je pense notamment à l'album Vidalosa.
Ouais, 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 de ouf.
Mais avec lequel tu as retravaillé donc, sur Trop tôt pour mourir.
Ouais, ouais.
Voilà, comment ça s'est fait en fait le fait de retravailler avec lui? Est-ce que il y a eu des indications particulières? Est-ce que c'est aussi des choses de studio, voilà, pour le travail sur cet album-là?
Bah pour le coup, aucune, parce que je crois que sur tous les producteurs qui sont sur l'album, je suis le seul qui n'était pas en studio.
Ok.
En fait, moi. Je pense qu'ils m'ont contacté quand ils avaient le squelette, qu'ils avaient posé une base et qu'ils étaient à la recherche de choses. Et moi, du coup, je lui ai envoyé une palette de choses que j'avais fait dernièrement. Et je suis super content des morceaux.
Ouais.
Parce que tu vois, par exemple, la prod de Branché, moi, je t'avoue, quand je la fais, je pense à Kendrick. Je veux l'envoyer à Kendrick, j'arrive pas. et je me dis, bah, c'est bon, je suis niqué, tu vois, personne ne posera là-dessus en France. Et tu vois, le fait qu'ils la prennent et qu'ils en aient fait le morceau qu'ils ont fait, j'étais super content parce que je kiffe grave cette prod.
Wesh le moms, bien carré dans la cellule, y'a déjà du te chicalé. J'ai passé deux ou trois semaines aux arrivants. J'ai croisé le petit ref à mams, je suis égaré. Mandat DPD2, c'est le bâtiment. Ouais, je sais, j'ai appris pour le petit ref à mams. Des petits faits de violence, cette balle avec arme. T'as besoin de choses qu'elle, t'appelles qui réclame. J'ai déjà vidé le box, c'est bouger ta bécane.
Je trouve que cette prod et d'autres prods sur l'album, elles sont un peu emblématiques d'un truc chez toi. Et c'est peut-être aussi le fruit du travail. Pour toi-même, c'est que je les trouve très enrichis en plein d'éléments musicaux. C'est-à-dire que même une prod, par exemple, comme Je te pardonne, il y a du piano, il y a un bout de voix, il y a une guitare wah-wah.
Ouais, ouais,
tu vois, il y a plein de choses où, finalement, chez toi, qu'on n'entendait pas nécessairement avant. Et je ne sais pas si... Tout à l'heure, je te posais la question si à quel point ton parcours de producteur rap avait nourri ta musique solo. Mais je me demande si aussi... la créativité que tu as fait preuve pour toi-même, ça n'a pas nourri aussi tes prods récemment pour le rap. Tu vois, s'il y a
c'est
pas
totalement,
un...
ça c'est sûr et certain. Ouais, ouais, si, je suis totalement d'accord. Bon, tu sais, c'est marrant parce que, en gros, moi, quand je fais des prods, j'ai besoin d'avoir certaines sensations et pour les avoir, j'ai besoin de sentir un truc un peu particulier ou un truc qui se détache. Et quand je suis dans cette bon état d'esprit, ça m'en fait faire d'autres, tu vois. Et donc, c'est sûr que ça nourrit d'une manière ou d'une autre, sûr et certain. Ouais.
Pendant très longtemps, à part avec Dolor, tu as eu, comme beaucoup de producteurs, finalement un truc très solo où tu fais de la musique de ton côté, t'envoies, même si après il peut y avoir des choses qui changent dans les échanges avec les rappeurs. Il y a une production qui sort l'an dernier, qui est une production pour Green Montana,
ouais.
Qui s'appelle, alors à chaque fois j'inverse les noms, Bezos, Pino,
Bolloré, c'est ça.
Ouais. C'est dans ce sens-là,
ouais.
Sur lequel tu n'es pas tout seul, puisqu'il y a Icaz Boy et Banks Beats. C'est un peu nouveau pour toi, justement, d'être dans des schémas où tu collabores. Comment ça a fonctionné sur une production comme ça, par exemple?
Ben ça, en fait, c'est un hasard. C'est-à-dire que je suis en studio avec Icaz pour un artiste américain qui a beaucoup de retard.
Ce qui arrive.
Ce qui arrive.
avec les Américains.
Ce qui arrive souvent. Et ouais, en plus, quand ils viennent. En gros, donc, on... avec Icaz, on se rend compte, tu vois, parce qu'en fait, on s'est jamais vu en vrai. Je connais son travail, on, tu vois, et tout. On parle, on accroche et tout. Et puis, à un moment donné, Icaz dit, bah, tiens, vas-y, si on faisait une prod, tu vois, en attendant. Et donc, moi, j'avais composé la mélodie, tu vois, avec la guitare, la trompette et tout. Je lui fais écouter cette boucle-là. Il kiffe. Il se met à faire des drums dessus. Après, je sais que j'avais pris un clavier, je joue le pad. Et donc, en fait, on l'a fait sur le moment, tu vois, mais sans vraiment... Je ne sais même pas ce que ça allait devenir, cette prod, tu vois. Et puis, ouais, et puis après, il était en studio avec Green, il fait écouter la prod et ils ont fait le morceau, quoi.
Je dis qu'il est pas de moi. Millions d'euros chaque mois. Je déteste la fuck à chaque fois. J'peux pas me faire tuer par toi. Mon agent pièce, vieux coloré. RS, Brabus, AMG. J'sais que le 17 pour m'alléger. J'ai pas tête, Alex, au poignet.
Donc, des fois, voilà.
Ouais, c'est, franchement, c'est un pur hasard. Quoi.
Le buff de musicien en studio, parfois, c'est ça, ça peut exactement. Donner un peu de magie, quoi. Ouais,
c'est ça.
Est-ce que ça t'a donné envie, ça a allumé une case de te dire, en fait, c'est cool parfois d'avoir ces moments d'échange? Ou est-ce que ça reste un accident et c'est très bien comme ça aussi, tu vois?
Moi, je crois aux accidents. Je pense que, tu sais, les choses, elles arrivent comme elles doivent arriver. Il ne faut pas essayer de les contrôler et tout. Mm-hmm. En même temps, tu vois, cette prod, on n'aurait pas pu la faire si à un moment donné, je n'avais pas été dans ma zone et composé cette boucle mélodique, tu vois. Moi, les sessions, j'y crois quand on vient en apportant quelque chose. C'est-à-dire juste dire, tiens, on va se poser, on va voir ce qui sort. Peut-être que ça peut marcher. Mais tu vois, ça a rarement... Ces derniers temps, je fais pas mal de studio avec des Américains, tu vois, des producteurs, que ce soit, comment il s'appelle, c'est le producteur de Memphis, là.
Take Heath,
merci. Take Heath, tu vois. Ouais. J'ai fait des sessions avec, tu vois, avec son équipe de producteurs. J'ai fait des sessions avec Section 80, qui faisait les prods un peu, qui a fait The Bigger Picture de Lil Baby. Mm-hmm. Et tu vois, par exemple, en bossant avec eux en studio, c'est pas du tout ma manière de fonctionner, tu vois. Okay. Genre d'écouter des boucles à la chaîne, tu fais les hats, tu fais les snares. Tu vois, il y a un truc trop désincarné. Moi, ma prod, j'ai besoin de la vivre. Mm-hmm. Et tu vois, c'est mon enfant, c'est ma création. Ouais. Où je propose un truc global et puis je propose pas seulement une boucle. Tu vois, j'ai envie de proposer un morceau avec une évolution, une structure et tout.
Il y a presque quelque chose de presque trop industriel dans leur manière de fonctionner. C'est usiné, quoi.
C'est exactement ce que j'ai senti. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être au domac. Genre, toi, tu mets les tomates, toi, tu mets la salade. Mm. Je peux pas, en fait. C'est trop désincarné pour moi. Je pouvais pas. Et en plus, j'ai eu des propositions de gros compositeurs carrés qui voulaient me signer. Mais ce mode de fonctionnement, j'ai du mal avec ça.
On va parler de ton avenir maintenant et qui est lié à ton présent. Ton album The Broken Blue vient de sortir. Est-ce que ça a fait pousser l'envie de faire un autre album derrière? Est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu veux déjà défendre cet album comme d'autres artistes interprètes, sur scène? C'est quoi un peu tes envies dans l'immédiat pour pouvoir défendre ta musique?
Alors, un autre album, j'ai des idées pour d'autres titres, mais je sens que j'ai besoin que cet album-là, il vive.
Déjà. Bien sûr.
Tu vois, j'ai vraiment envie qu'il vive. J'aime beaucoup la proposition. Tu vois, j'ai vraiment envie de voir comment le public s'en empare, comment il reçoit et tout. La scène, j'ai envie d'en faire, mais j'ai pas envie d'en faire comme tout le monde non plus, tu vois. Je suis pas dans la caste d'un artiste très expansif qui va jouer un personnage, qui va faire des stories chez lui et tout, tu vois. Et je sais que j'ai des idées pour la scène, mais je veux les faire à ma manière. Et pour ça, je pense que j'ai besoin que la musique vive déjà, tu vois. Donc honnêtement, plein d'idées, mais...
Déjà, l'album sort.
Ouais, c'est ça.
Que les gens se l'approprient.
Exactement.
En fait, il t'appartient un peu, comme on dit, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, il t'appartient plus. Maintenant, ça appartient aux auditeurs. Exactement. Et on va voir ce qu'ils vont en faire, quoi.
C'est ça.
Est-ce que parfois, t'as des idées de... refaire de la réalisation comme ce que vous avez fait avec Dolor sur un album d'Al Capote, ça te titille ça de temps en temps ou
Ça franchement ça pourrait totalement, mais ouais. ça dépend de la relation avec l'artiste.
Bien sûr.
Tu vois, à partir du moment où t'as un artiste qui a cette volonté, qu'on a une ambition commune de créer quelque chose à fond avec plaisir, tu vois.
Donc ça peut rester dans un coin de ta tête selon la bonne rencontre, quoi.
Exactement, exactement.
Dernière question, qui est pas la plus facile et que je pose à chaque fois à toutes les personnes qui sont à ta place devant ce micro. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, ni sous le nom de Sander Weiss, ni sous le nom de BBP, si tu devais te présenter en un morceau, une de tes productions, soit pour toi-même, soit pour d'autres, ce serait laquelle?
Waouh. Oh là là, c'est... Franchement, c'est très difficile. Il y a une partie de moi qui a envie de te dire Nara. Il y a une partie de moi qui a envie de te dire La misère est si belle. Et en même temps, une partie de moi qui pourrait te dire Sky Priority aussi, tu vois.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi, oui.
Tu vois, ouais. C'est dur, ouais, mais ouais, une de ces trois-là. Mm-hmm.
Ces trois-là. Écoute, tu as réussi à réduire à trois, c'est déjà ouais. pas mal. Voilà. Ouais. Ça fait un petit éventail,
voilà, c'est ça.
Un petit nuancier de BBP Sunrise. Et puis évidemment, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est la musique en 2023 de BBP Sunrise, il y a évidemment l'album de Sunrise qui s'appelle The Broken Blue et qui mérite une écoute puisqu'il y a plein de nouvelles directions qui sont proposées et créées. Donc voilà. Merci à toi d'avoir
Merci
été avec
beaucoup,
nous.
En fait.
Pour avoir échangé dans ce podcast BPM de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les futurs épisodes et les anciens si vous en avez envie. À très bientôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.